L'avant-match. Voici François Paquette.
Salut François, comment vas-tu?
Ça va bien, merci Dan. Je veux juste finir, tu parlais de Nathan McKinnon. L'Avalanche joue du bon hockey, mais hier, j'ai décidé, à un moment donné, c'était 6-2 en troisième. J'ai dit, bon, on fermait les livres pour ce soir. Oui. Je vais checker le basket. Les Warriors venaient par 30 points. Je suis allé me coucher. J'ai dit, c'est impossible qu'il y en ait une des deux qui vire de bord. Je me suis levé ce matin, les Warriors avaient perdu. Ils menaient par 31 points quand je suis allé me coucher précisément. C'est un record de la NBA. Mais Colorado, ça n'a pas changé pendant tout le
show.
Je me suis levé ce matin, c'est 6-2. Puis je me disais, s'il y avait une des deux équipes, c'est à peu près le même challenge. Oui. Je me disais, tu perds par 4 buts, tu perds par 30 points. Je me disais, il y a plus de chances avec leur attaque que les Flames puissent revenir, mais comme tu as mentionné, ils n'ont pas joué un grand match. Puis je me suis même posé la question à un moment donné pourquoi on gardait Mike Smith devant le filet, mais je pense qu'on était déjà en train de dire que c'est lui qui allait être là pour le match numéro 4.
Ouais.
Fait qu'on voulait pas de controverse, on l'a laissé là.
On lançait le message, puis tu peux même pas amener Rittich ce soir, tellement Smith a été bon hier, pas ce soir, mais demain évidemment, tellement il a été bon hier. Puis ce qui est un peu paradoxal dans ta décision, quand tu dis les Warriors mènent par 30, puis l'Avalanche mène par 4, ben, l'Avalanche est la moins bonne équipe des deux, en principe. Pas hier sur la patinoire, mais en principe, quand on regarde le classement. Alors que les Warriors, qui mènent par 30, c'est pas une surprise qu'ils mènent par 30. C'est énorme comme différentiel, mais c'est assurément la meilleure des deux équipes sur le terrain, puis c'est les autres qui ont perdu.
Mais sais-tu ce que tu remarques des fois dans le monde du sport? Tu sais, TSN s'amuse souvent quand il y a un match, ils disent « the turning point ». Tu sais, il arrive un jeu qui change complètement l'allure d'un match.
Ouais.
Moi, j'ai trouvé hier, par exemple, dans le match de basket, de Marcus Cousins s'est blessé sérieusement, probablement que sa saison est finie. Genre de jeu, tu sais, qui peut un peu geler les joueurs, puis tu sais, le moral baisse. Puis même Ovechkin, qui frappe, tu sais, qui est dans le combat, qui finit par passer le KO à Shechnikov, t'as l'impression que c'est plus les Capitals et surtout Ovechkin qui ont été assommés par ce geste-là, puis le reste du match, se sont fait manger tout rond. Puis c'est fou comment, dans certains matchs, c'est un jeu qui peut changer l'allure, puis des fois, t'as l'impression, tu sais, que ça va aller de ce sens-là, puis pas en tout. C'est l'autre équipe qui prend le momentum, mais j'ai trouvé que c'était ce genre de soirée-là, hier, avec soit un beau jeu, une blessure, quelque chose qui arrive puis qui change complètement l'allure d'un match. Mais on a vu ça dans différents sports dans les matchs d'hier.
Absolument. L'Avalanche m'a impressionné. Je reviens sur mon intro avec McKinnon. L'Avalanche m'a impressionné. Puis tu sais, ce qui me surprend aussi, c'est qu'on voit pas Johnny Gaudreau.
Non, pas en tout. Mais écoute, il y a quand même des parallèles à faire sur ce qui se passe avec les Flames, de ce qui se passe un peu avec le Lightning quand même. Là, t'es numéro un dans ta conférence. C'est sûr que les Flames n'étaient pas largement favoris comme le Lightning l'était. Mais, tu sais, le hockey des séries est tellement différent, Dan. Puis on l'avait mentionné. Tu sais, moi, je t'avais parlé du Lightning comme l'équipe que je surveillerais durant les séries, en me disant le chemin va être plus ardu que ce que je pense. Puis dans le cas des Flames, moi, je me disais, c'est le genre de club, certainement, qui peut se faire sortir en partant, mais surtout en raison de son gardien de but. Puis c'est pas le cas, pas en tout. Parce que même le premier match, là, ils ont gagné 4-0, sauf erreur, le premier match. Puis si Mike Smith avait pas été aussi bon, ça aurait été un match très, très différent.
Ouais.
C'est une drôle de série jusqu'ici parce que t'as l'impression que le gardien a rien à voir dans les déboires des Flames. On joue pas du bon hockey. Il manque un petit quelque chose, une petite étincelle. Puis écoute, va falloir qu'elle arrive rapidement, là, parce que si t'échappes le match numéro 4, t'es dans le trouble, puis royalement à part de ça. Donc j'ai hâte de voir, mais tu sais, je reste convaincu, Dan, probablement une des deux équipes que tu as nommées en début d'intervention, Tampa ou Pittsburgh, il y en a certainement une des deux, je pense, qui va se ramasser en vacances ce soir. Et puis c'est encore une belle façon de démontrer comment les séries, c'est une autre saison, puis comment le hockey des séries est tellement différent, surtout par le fait que ça brasse puis que les officiels appellent pas grand-chose comme pénalité.
Là. Parlons-en d'Alexander Ovechkin, qui à 33 ans a jeté les gants contre un jeune de 19. Ovechkin, après le match, a dit « C'est le kid qui m'a demandé de me battre. » Alors j'ai dit « Ok, pourquoi pas ». Le Rob Brind'Amour, l'entraîneur-chef des Hurricanes, est en furie contre Ovechkin. Il dit « Il savait que le kid a juste 90 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il s'est jamais battu de sa vie. Il sait pas comment se battre. Ovechkin aurait dû dire non. Ses deux compatriotes russes, probablement même, je lisais ça sur les réseaux sociaux hier, probablement que l'idole de Svechnikov plus jeune, c'était Ovechkin. Là, il se fait donner une volée par son ancienne idole. En principe, là, je déduis que c'était son idole, mais il se retrouve en commotion cérébrale. Je dis pas que sa carrière est compromise, mais à tout le moins, il va avoir mal à la tête une couple de semaines. C'est quoi ta lecture de cet incident-là, François? Est-ce que c'est la faute d'Ovechkin ou la faute du jeune?
Ben, en fait, pour moi, c'est surtout pas la faute d'Alexander Ovechkin. Puis, okay. Tu me connais, puis les gens me connaissent, je suis pas un gars très violent, non. Je suis un gars, tu sais, si la Ligue nationale demain matin bénissait les combats, moi, je vivrais très
tu
bien avec ça.
Tu n'as pas de marge
ça.
Dans la rue, moi non plus.
Non, puis dans le contexte que ça se passe, puis il faut remonter au match numéro 2 aussi. Là, écoute, il y avait eu un épisode de Star Wars à un moment donné où les deux se donnaient des coups de bâton, c'était hallucinant. Puis là, le ton a monté, puis honnêtement, Shchechnikov le cherchait encore, là, parce que ouais. Là, il tournait autour, il a donné quelques coups de bâton. Les deux se regardent, les deux s'invitent, les deux disent oui. Moi, sincèrement, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, je pense que je serais plus mal à l'aise si c'était un 16 ans versus un 20 ans dans le junior, okay. Que tu sais l'histoire okay. De 19-30. Il est majeur, il savait ce qu'il faisait. Je veux dire, Ovechkin sait que le gars a 19 ans, mais est-ce qu'il s'est déjà battu? Tu sais, le gars, il t'invite, il était un peu tanné de lui, puis je pense que tu peux donner une étincelle à ton équipe. Moi, je vis très, très, très bien avec ça. Okay. Je pense que Shchechnikov l'a cherché, ouais. C'est dommage, puis honnêtement, les gens qui l'ont écouté, moi, j'étais en anglais à ce moment-là, la réaction de Pierre Maguire, live à la télé, là, quand il l'a vu tomber, et lui, il criait, il faut que les soigneurs sautent sur la glace, là, parce que non seulement il l'a eu sur le museau, mais la tête a frappé lourdement sur la glace. Puis, tu sais, comme tu as mentionné, c'est peut-être pas une blessure qui va mettre un terme à sa carrière, mais c'est une blessure, des fois, qui peut changer la façon de jouer de certains joueurs ou la façon de se comporter, peut-être. Puis j'ai toujours en tête qui s'était passé pour un gars comme Mike Komisarek avec Milan Lucic, comment ça a changé sa carrière. C'est sûr que Shchechnikov n'est pas du tout ce genre de joueur-là. C'est un marqueur de but, c'est un très bon joueur de hockey. Mais ce qui s'est passé hier, pour moi, ça fait partie du jeu quand okay. Les deux gars sont... Moi, je suis beaucoup plus à l'aise que ça, que le double échec de Kadri en plein oui, visage de DeBrusk ou le coup de coude de Thornton à Stéphane Nocek.
Oui, ils ont été suspendus et avec raison. Pour Ovechkin, finalement, plus j'y pense, plus je t'écoute parler que Svechnikov l'a cherché depuis deux games. C'était peut-être pas son idole, finalement, quand il était jeune.
Hey, mais hier, là, parce que l'autre fois, je me disais, tu sais, les deux s'en étaient donné quelques-uns. Puis à un moment donné, hier, là, tu le vois passer en arrière d'Ovechkin, puis là, il a mis ça en arrière d'un mollet, là, mais solide. Là. Puis là, je pense que tu as senti que c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase en disant, s'il me demande d'y aller, là, j'y vais. Là. Puis tu sais, honnêtement, je sais pas combien de fois Ovechkin s'est battu dans sa carrière, là, mais je peux dire que les deux derniers coups de poing, c'en étaient des solides, là, puis qui ont atteint la cible. En plein cœur, puis avec la tête sur la glace en plus. Honnêtement, ça fait peur à voir, mais comme on se disait, je pense que ça reste que dans la façon que c'est fait, tout le monde était d'accord pour y aller. Je pense qu'on peut pas en vouloir à Ovechkin, mais j'ai hâte de voir quand même comment il va réagir. Puis il y en a vu d'autres, puis c'est pas un gars, je pense, qui habituellement va se laisser tourmenter par quelque chose comme ça. Mais tu l'as senti hier, hein, l'après-match, les questions, tout ça, que la première chose qu'il voulait dire, c'est j'espère qu'il va bien, puis sans s'excuser, tu voyais, il avait quand même un petit malaise par rapport à ce qui s'était passé. J'aime autant mieux le voir marquer 3 buts dans un match que de se battre, ça, c'est
ben
sûr.
Ben oui, c'est certain. Les Hurricanes, quand même, qui ont gagné ce match-là, on fait juste parler du combat, mais ils ont quand même gagné 5-0. Et ils ont outrageusement dominé pour les tirs au but. C'était même pas proche hier, les tirs au but dans le match entre la Caroline et les Capitals. 45-18 au total. Et tantôt, on parlait de l'Avalanche, ça a fini 56-29, les tirs au but, à la faveur de l'Avalanche.
Mais c'est ce qui est fascinant d'une soirée comme celle d'hier, tu vois, c'est qu'on parlait d'un combat d'Alexander Ovechkin. Puis si tu regardes le match à Toronto, ce que les gens parlaient, c'est le jeu défensif de Mitch Marner.
Mitch Marner, il a bloqué deux tirs à la fin. Je me suis dit, coudonc, il est multitalent, lui.
Ah, c'était incroyable, mais c'était de toute beauté. Écoute, oui. C'est la preuve là, d'un gars qui se dit, je me donne corps et âme pour gagner un match. Et hey, puis c'était deux vrais plombs, là, puis le dernier directement sur la cheville. Mais c'était de toute beauté hier. John Tavares a joué un match fantastique devant Patrice Bergeron hier, autant dans le cercle de mise en jeu que dans l'ensemble de la patinoire.
Il l'a dominé. Hey, tu fais bien, François, de souligner le cercle de mise en jeu parce que Tavares a dominé Patrice Bergeron, qui est un des meilleurs de la Ligue depuis 10 ans.
Oui, puis ça doit pas arriver souvent qu'il est en bas de 50% dans une soirée. Puis tu vois un gars comme Johnsson qui vient prendre la place de Kadri, qui était un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur des Leafs. Puis à la fin, Marner, c'est la façon dont il bloque les lancers, le moment, parce qu'il reste à peu près 2 secondes, c'est les deux derniers tirs du match. Puis la réaction des joueurs qui quittent le banc, ils vont pas voir le goaler en premier, ils s'en vont voir Marner. Ouais. J'ai trouvé que ça a été une belle victoire d'équipe. Puis jusqu'ici, c'est une série qui est très intéressante, mais tu sais, à pareille date l'année passée, quand les Browns et les Leafs avaient trois matchs de jouer, Krejci, Bergeron puis Marchand avaient presque tous 7, 8, 9 points dans la série. Mais là, c'est très différent de la façon que ça se passe. Freddie Anderson a été très bon jusqu'ici. Puis j'ai trouvé les Leafs quand même très responsables défensivement pour réussir à conserver des avances. On sait qu'ils ont eu beaucoup de misère dans les dernières années, surtout contre les Browns. Donc ça regarde bien. Puis tu sais, veux pas, Dan, puis on va attendre avant de faire des comparaisons, puis on va voir ce qui va se passer. Mais tu sais, des fois, quand tu penses au Canadien de 86, au Canadien de 93, puis des fois, t'as de la chance, tu sais, les Pingouins sont éliminés par les Islanders, c'était le cas en 93, puis des choses comme ça. Mais je me dis, écoute, si Columbus vient qu'à sortir Tampa, puis Toronto sort Boston, je veux dire, le gagnant ensuite, que ce soit Columbus ou Toronto, tu ne l'attendais pas en finale de conférence.
Non.
Et ça se peut que ça se passe pas du tout comme prévu, mais tu sais, j'aime beaucoup ce que je vois présentement, mais j'aimerais quand même voir le Lightning ce soir, tu sais, sortir les griffes pour dire on va chercher une victoire, on retourne à la maison, peut-être qu'Edmund sera prêt à revenir à ce moment-là pour faire changer la pression de côté, mais d'en gagner quatre de suite, c'est tout un défi pour la troupe de John Cooper.
Puis, sais-tu quoi? Tu parlais de surprises tantôt. On s'en souvient jamais, mais à chaque année, il y en a des surprises. Puis, j'espère l'an prochain, au mois d'avril, que les gens vont se souvenir que je leur avais dit un an avant qu'il y avait des surprises quand ils font leurs prédictions. Je te dis, François, on a organisé un concours avec les auditeurs, là. C'est Honda de Giroux qui va donner 5 000 $ pour une grille parfaite. 1726 participants. 763 ont pris Tampa Bay pour gagner la Coupe Stanley. Je sais que c'était logique, puis il avait fait 128 points, dont 62 victoires. Mais à chaque année, il y a des surprises, mais l'année d'après, on s'en souvient pas, puis on prend tout le temps la meilleure équipe au classement qui va gagner.
Non, oh, puis je veux dire, c'est la nature humaine aussi. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai pris Tampa en 6 en me disant, je pense que Columbus est capable de leur donner un challenge. Puis après, tu sais, la première période du premier match, c'est 3-0, puis tu dis, je suis stupide, là, ça va finir en 4 dans le temps de le dire. Puis c'est fou comment ça a changé à partir de ce moment-là. Mais c'est ça, puis tu sais, comme je dis toujours, le gros problème, c'est que de un, t'as les officiels, tu sais, je veux dire, c'est hallucinant là, comment c'est un autre sport. Là. Ça prend vraiment un coup de bâton à deux
ça
mains.
Ça brasse pas à peu près. Bâton. Oui,
mais c'est trop au moment donné.
Oui, c'est trop.
Pour, oui. L'obstruction, puis tout ce qu'on appelle d'habitude, puis ça influence énormément sur le match, puis tu as beaucoup d'équipes, Dan, qui se spécialisent en avantage numérique. Puis moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que nous, on a fait notre pool de gang qu'on fait chaque année pour les séries, mais on le fait vendredi. Fait que tu sais, il y a déjà mercredi, jeudi de jouer, puis vendredi, quand tu commences, là, les games commencent. Fait que tu sais, on est tous à prendre Tampa Bay, les deux, trois, quatre premiers joueurs, puis là, Columbus marque un but, puis là, tu te mets à douter, puis finalement, à un moment donné, tu changes comme ton fusil d'épaule, mais c'est fou comment, à chaque année, il y a eu des surprises, tu sais, certaines qu'on voyait venir, mais d'autres pas du tout. Mais si jamais Columbus gagne ce soir, tu m'aurais dit Columbus peut battre Tampa. Honnêtement, j'aurais dit il y a quand même une petite possibilité, mais en quatre matchs, jamais. Puis quatre matchs, tu sais, que surtout les deux derniers, là où vraiment les Blue Jackets sont très, très, très bien joués puis ont dominé. J'aurais jamais dit que ça pourrait se terminer en quatre. Donc j'ai hâte de voir, mais ça risque d'être une saison de 128 points qui va être une des plus grandes déceptions de l'histoire des séries éliminatoires.
Exact. François, ce soir à Vegas, les Golden Knights reçoivent les Sharks. Je les regardais jouer au dernier match. Stachny, 5 points. Stone, 5 points. Pacioretty, un but de passe. Et l'année dernière, leur premier trio, c'était Carlson, Marchessault et Riley Smith. Cette année, c'est pas mal plus Stone, Stachny et Pacioretty. Et pendant 17 ans, M. McPhee, qui dirige les Golden Knights comme directeur gérant maintenant, était à Washington. Puis honnêtement, j'ai été sévère avec lui à Washington parce que j'ai toujours trouvé que les Capitals, ça menait nulle part puis ils prenaient pas les bonnes décisions. Par contre, aujourd'hui, je suis obligé de dire que c'est un génie. Trouve-moi ou nomme-moi une équipe dans les 30 dernières années. On va dire que tu suis le hockey depuis 30 ans, parfait?
Oui.
Nomme-moi une équipe dont le DG est allé chercher ailleurs le premier trio au complet.
C'est pas arrivé souvent, en tout cas. Peut-être deux, là, mais les trois, là, pas sûr que c'est déjà arrivé. Puis Dan, la transaction Mark Stone... Et, moi, j'aime cette transaction-là, de un, par le fait que on l'a signé à long terme. Tu sais, ça change complètement l'allure de la transaction. Puis on a beau me dire qu'Eric Barnstrom est très, très bon, là, mais il est mieux d'être très bon si, pour justifier cette transaction-là, parce que Mark Stone, tu sais, tu dis, il marchait comme ça, il y a déjà quoi, 6 buts en 3 matchs, puis tu disais, regarde, il s'en va au bout de la saison, puis il s'en va comme agent libre, ce serait déjà quand même un bon coup que tu aurais fait. Tu l'as signé là pour, tu sais, pour 7-8 ans, puis tu es en business pour un bon bout de temps avec Mark Stone. Je veux dire, Stachny, tu l'as signé comme agent libre. Peut-être que Charity va te coûter un petit peu plus cher que prévu, tout dépendant du développement de Suzuki puis de ton choix de deuxième ronde. Mais c'est fou, là, le travail qu'on a fait. Puis, tu sais, l'année passée, moi, je faisais partie de ceux qui y croyaient pas du tout. Mais cette année, j'étais comme de l'autre côté en me disant, il me semble qu'ils sont encore bons, voire même très bons, peut-être meilleurs que l'année passée. Mais ça a été une saison qui a été bonne, sans être extraordinaire, mais peut-être un peu en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Mais ce club-là, là, est très, très, très solide dans toutes les facettes du jeu. Puis moi, personnellement, c'est le club que je voyais sortir de cette conférence-là parce que, tu sais, je suis pas confiant envers les Flames en raison de leurs problèmes de gardien de but. Puis tu regardes les Sharks, c'est un peu la même chose. Le Martin Jones a eu une saison difficile, puis c'est pas des grandes séries pour lui jusqu'ici. Fait que ils ont peut-être une chance encore de faire un bon bout de chemin, puis d'une équipe qu'on n'aura pas parlé autant que l'année passée parce que c'est leur deuxième année. Mais c'est un club qui pourrait certainement se faufiler jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Puis là-dessus, tu sais, faut être honnête, Dan, George McPhee, dans sa carrière, en a fait aussi des très mauvais coups, là, des transactions qui ont été épouvantables pour les Capitals. Mais faut admettre que depuis 2 ans, puis peut-être même un petit peu plus avec la construction de l'équipe, il a vraiment fait un travail fabuleux avec cette équipe-là.
OK. Alain Vigneault hier est devenu l'entraîneur-chef des Flyers. Mauvaise nouvelle pour les partisans du Canadien. Les Flyers vont être meilleurs. La semaine dernière, c'était Joel Quenneville qui arrivait en Floride. Mauvaise nouvelle pour les partisans du Canadien. Les Panthers vont être meilleurs. Aujourd'hui, ça touche pas le Canadien, mais Todd McLellan est nommé entraîneur-chef des Kings. Et quand je regarde sa feuille de route, entraîneur adjoint avec Détroit pendant 3 ans, 7 ans entraîneur-chef avec les Sharks, il a perdu en finale de conférence 2 fois, il n'a pas atteint une seule fois la finale de la Coupe Stanley, alors que les Sharks, pendant des années, on disait que c'était une des meilleures équipes de la Ligue. L'année où ils sont allés en 2016, c'était plus lui qui était là. Il a dirigé 3 ans les Oilers, il a manqué 2 fois les séries. Puis on le signe à long terme avec les Kings. Y a-tu de quoi que j'ai pas compris pour cet entraîneur-chef-là, François? Ou?
Ben, je sais pas, mais le pire, c'est qu'il a failli se retrouver à Buffalo au départ, puis finalement, la discussion a tourné un petit peu plus courte que prévu. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ou est-ce qu'on a frappé un nœud. Mais je pense que Todd McLellan est une très bonne personne, que c'est un gars qui se vend très bien. Puis je pense que ça reste un bon coach. Mais moi, c'est pas McLellan autant le fait, Dan, que c'est quand même autant pour Alain Vigneault, puis Joel Quenneville, puis Todd McLellan, tu sais, ça reste que la Ligue nationale, puis le sport professionnel, il y a quand même beaucoup de recyclage.
C'est toujours
on
les
a
mêmes.
Peur un ouais. peu de la nouveauté.
C'est
hein.
vrai.
T'sais, peut-être
c'est
d'amener
vrai.
Un gars qui est plus statistique avancée, puis la nouvelle génération. Tu sais, puis à quelque part, je me dis, écoute, on va s'entendre, là, que c'est un gars comme Quenneville, c'est dur de passer à côté, là. Il a gagné la Coupe Stanley, il est encore, je pense, très au goût du jour. Alain Vigneault, je dois t'avouer que je regardais les commentaires hier à Philadelphie, les gens étaient pas très, très chauds à l'idée de voir Alain Vigneault arriver. Mais tu sais, c'est un gars qui a une belle feuille de route, mais McLellan...
Mais le public des Flyers n'est pas chaud à l'idée de grand-chose, hein?
Non, ça, là-dessus, tu marques un point. Mais McLellan est vraiment peut-être la signature qui me laisse un petit peu plus froid. Là. Je suis pas un gars qui... j'aime beaucoup Todd McLellan, comme je te dis. Je trouve que c'est un gars en conférence de presse, dans ses entrevues, qui fait en solo, puis tout ça. C'est un gars qui se présente très bien, qui s'exprime très bien, qui, je pense, est très, très bon avec ses joueurs, mais ça veut pas dire nécessairement que tu es un bon coach. Tu as quand même fait des bonnes choses, mais j'ai hâte de voir parce que le défi est de taille là, à Los Angeles. Là. Je sais pas c'est quoi le plan. Déjà qu'on n'a pas eu le choix espéré pour le prochain repêchage. Quelques mauvais contrats. On s'est rajeuni un peu en laissant partir Mazen et quelques autres. Ça va être difficile d'être compétitif dès l'an prochain. Fait que je sais pas c'est quoi le plan exactement qu'on a chez les Kings. C'est pour ça que je trouvais la signature encore plus surprenante. Moi, je m'attendais à voir McLellan beaucoup plus aboutir à Buffalo en se disant
ouais.
Il l'a vécu à Edmonton, la jeune équipe qui s'en va vers les séries.
Ouais.
Je pensais vraiment qu'il était un meilleur fit, comme on dit. Mais écoute, les Kings se tournent vers lui, puis on verra les résultats. Mais je serais très, très, très surpris que les Kings soient dans les séries la saison prochaine. Même si Jonathan Quick va être meilleur, puis Drew Doughty aussi, puis Andy Kopitar également. Mais c'est tous des gars qui vieillissent, puis il manque de chair autour de l'os pour que cette équipe-là soit une équipe compétitive. Mais ton choix de première ronde que tu vas avoir. Gabe Vilardi, qu'on parle depuis un petit bout de temps, là, que le Canadien voulait avoir pour Pacioretty.
Il est blessé au dos, je pense.
Oui, puis il a été blessé pour un bon bout de temps. Là. Je ne sais pas pour l'année prochaine s'il va être prêt, mais tu sais, tout ce monde-là que tu vas voir arriver, puis ouais. Peut-être les jeunes qu'on a eu dans la transaction Toronto, le choix de première ronde de Toronto, mais je vois pas cette équipe-là être compétitive, peu importe qui est derrière le banc pour les Kings l'an prochain.
François, avant de te laisser, les Red Sox affrontent les Yankees à New York ce soir. 6 et 11 pour les Red Sox, 6 et 9 pour les Yankees. Comment tu m'expliques ça?
Ben écoute, les Yankees, les blessures, c'est complètement fou, Dan. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, on a ajouté Greg Bird, le joueur de premier but. La liste des blessés, c'est une demi-équipe. Là. Il y a une douzaine de joueurs qui devraient se retrouver dans la formation. Puis tu sais, des bons, là, quand on parle de Stanton, Severino, puis Andujar et compagnie. Je pense que c'est la grande raison de leurs insuccès jusqu'ici. Les Red Sox, je vais t'avouer, Dan, je commence à être inquiet un peu, là, parce que si les gens regardent le match ce soir, là, c'est Chris Sale qui lance. Là. Chris Sale a de la difficulté à lancer 91-92. C'est un gars qui lançait 96-97.
Il est 0 et 3.
Oui, 0 et 3, puis la vélocité n'est pas là. On vient de donner 145 millions sur 5 ans de prolongation de contrat. Je suis vraiment inquiet parce que sur la butte, tu as des gars Porcello. Ça va très mal. Porcello est allé voir la direction pour avoir une prolongation de contrat. On n'a pas voulu lui en donner une. Ça donne l'impression qu'il va partir à la fin de l'année, qu'il a l'air malheureux. Puis là, tu sais, t'as des gars, Eovaldi qui a eu son gros contrat, ça va pas comme prévu. David Price a eu des hauts et des bas. C'est surtout sur la butte qu'on en arrache, mais il faut être honnête que, tu sais, Mookie Betts peut en donner plus, puis JD, puis Bogart, et compagnie. Ça va probablement se replacer, puis c'est un club qui va finir en haut de 500. Mais le problème, Dan, c'est que la meilleure équipe dans cette division-là, ce sont les Rays de Tampa Bay. C'est tout un club de balle qui est construit différemment des deux autres, ça c'est sûr et certain. Mais je continue de croire, puis j'y crois depuis le début de la saison, que les Rays vont finir au premier rang de la section
R. Ah oui, autant que ça, OK, parfait. Je pensais pas, je savais qu'il était bon, je savais que l'année dernière, particulièrement dans le dernier mois et demi, il avait super bien joué, mais je pensais pas qu'ils étaient assez bons pour dominer leur division, étant donné qu'on avait Yankees et Red Sox dans la même division.
Mais quand tu affrontes les. Là, c'est sûr, Blake Snell est blessé, là, mais ce sera pas très long. On a dit à peu près 10 jours. Là, mais tu arrives une série, puis c'est Blake Snell, Charlie Morton, Tyler Glasnow. Je veux dire, c'est trois gars qui lancent des balles de feu. Ils ont une attaque très équilibrée et probablement la meilleure relève des majeurs. C'est un. Okay. Puis écoute, j'ai hâte de voir s'il va y avoir du monde à Tampa s'il continue de gagner. Mais c'est un club qu'il faut certainement avoir à l'œil. Puis on va regarder à l'envers, c'est-à-dire en bas de la division. Je commence à me demander certains soirs si les Blue Jays finiront pas en arrière des Orioles, parce que l'année est partie pour être très, très longue.
Parfait. Un gros merci, François. Bonne soirée à toi.
Salut, bonne soirée. Merci.
Merci, François Paquette, chroniqueur sportif et évidemment descripteur des matchs des Capitales depuis plusieurs années. François connaît très bien le baseball. C'est pour ça que j'avais une petite question pour les Yankees et les Red Sox à la toute fin. Juste avant d'aller à la pause, je veux vous lancer le rassemblement des auditeurs de l'avant-match. Vendredi de cette semaine, pour le match numéro 5, on sera au Blackstone-Lebourgneuf, nouveau bar sportif, Blackstone-Lebourgneuf. Vous réservez votre place au 88-651-1280. Il y aura des spéciaux pour la gang de l'avant-match. On va faire tirer des prix également, gracieuseté de l'entrepôt du hockey. On va avoir bien du fun au Blackstone-Lebourgneuf ce vendredi pour le match numéro 5. Par contre, vous les auditeurs, pour nous donner des chances, il faut absolument réserver votre place avec le nombre de personnes. Donc, 88-651-1280 ce vendredi, match numéro 5 pour la série Leafs-Bruins. Pourquoi on va voir ce match-là? Parce que les auditeurs de l'avant-match ont décidé de supporter les Bruins de Boston dans les séries 2019.
Avant chaque match,